Du coup, je vais te demander de répondre à cette première question un peu qui est de me dire un peu d'où est-ce que tu parles, enfin, où, voilà.
Ok, donc moi, bon, j'ai un cursus assez classique en termes de recherche, c'est-à-dire, enfin, de recherche en agronomie du moins, puisque j'ai fait une école d'agronomie, celle de Bordeaux, donc avec une spécialité agroécologie. C'est là où vraiment ma passion pour la flore, enfin, alors pour ma flore, c'était plus à la fac juste avant. Mais en gros, en école d'agro, je suis parti en école d'agronomie avec cet objectif de travailler sur les plantes et notamment les plantes sauvages. Et donc, en agronomie, ça fait directement appel à la flore adventice, ce que bien d'autres collègues peuvent appeler les mauvaises herbes, ou comme ça qu'on les appelait autrefois, du moins. Donc, c'est là où un peu ma passion a grandi pour la flore adventice et où j'ai décidé de faire une thèse sur le sujet par la suite. Et donc, moi, je me suis toujours intéressé en fait à l'effet des pratiques agricoles sur la flore adventice de manière générale et tout ça dans un objectif de réduction des herbicides. C'est-à-dire comment est-ce qu'on combine les pratiques agricoles et les cultures hein, au sein de différentes séquences culturales pour essayer de comment dire de contrôler la flore adventice par des moyens non chimiques. Donc ça il y a quand même un gros volet agronomie, gestion de la flore adventice via des moyens non chimiques. Et aussi, après, ça c'est plus ma casquette d'écologue, c'est de comprendre les relations entre ces cortèges de pratiques et de cultures et les communautés adventices qu'on retrouve dans les champs cultivés. Et donc ça fait directement appel à des notions d'écologie fonctionnelle parce que c'est pas forcément les espèces qui répondent favorablement ou négativement aux pratiques, c'est plutôt les caractéristiques des espèces. Il faut imaginer que les pratiques représentent une série de filtres et les espèces, selon les caractéristiques qu'elles ont, elles passent ou pas à travers ces filtres, quoi. Ça et aussi je me suis beaucoup intéressé à la compétition en fait hein, entre différentes communautés adventices et les cultures, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié en fait dans des contextes, on va dire historiques, avec beaucoup de fertilité, avec des communautés très simplifiées, généralement une espèce prise à la fois. Et donc ça nous interroge aussi sur en fait qu'est-ce qui peut se passer au sein de communautés où des espèces peuvent interagir entre elles, positivement, négativement. Et donc aujourd'hui, en fait, je m'intéresse à mon poste, si on prend ma fiche de poste, c'est diversification des systèmes de culture et gestion agroécologique de la flore adventice. Donc moi, à l'INRA, j'ai pour mission d'évaluer des pratiques innovantes en termes de gestion de la flore adventice. Donc moi, ça se cantonne vraiment en termes on va dire d'efficacité ou de compréhension de ces mécanismes. Et après, j'ai bien d'autres collègues qui, eux, mobilisent d'autres indicateurs, notamment économiques, sociaux, temps de travail, etc., pour avoir une évaluation plus globale de ces pratiques de diversification. Donc moi, je m'intéresse, donc je suis agronome, botaniste, hein, puisque je m'intéresse à la flore, à la fois dans les champs et les week-ends en dehors aussi. Voilà, agronome, botaniste, je m'intéresse moi quasiment exclusivement à de l'expérimentation en plein champ, donc soit des choses très contrôlées avec des microplacettes, etc., où on croise tous les facteurs histoire d'avoir quelque chose de super carré. Mais je peux aussi analyser des réseaux de parcelles d'agriculteurs, notamment comme le réseau DEFIFERM en France, plus de 1300 systèmes de culture répartis à travers la France qui sont suivis depuis 2010, et donc où on a des pratiques très détaillées. Et donc je peux aller voir par exemple le lien entre le niveau d'usage de pesticides ou notamment d'herbicides et les pratiques que font ces agriculteurs dans différents contextes, avec élevage, sans élevage, dans le nord de la France, dans le sud de la France, etc. Et donc voilà, tout ça pour dire, moi je me base sur des données récoltées au champ, je ne fais pas de modélisation, comme on peut l'entendre, c'est-à-dire ou de plutôt de simulation à partir de modèles virtuels ou ce genre de choses. Je reste un agronome de terrain. Voilà.
Ok, c'est complet. Du coup, en fait, donc, ce que je comprends, c'est que tu es dans un paradigme, ou du moins dans un propos scientifique par rapport à l'idée de mauvaise herbe, ou du moins d'adventice, en fait, qui correspond à l'institution dans laquelle tu es, dans l'institution de recherche, en fait, c'est comment dire, un objectif important pour l'INRA, en fait, de, j'imagine, trouver des solutions zéro phyto, mais du moins, quel est le point de vue, en fait, vis-à-vis de ces herbes qui viennent dans le champ et qu'on veut pas trop, quoi, quand on est agronome, quoi, pour le coup, ou
Oui.
du moins quand on est dans le paradigme de l'agriculture, quoi, qui est plutôt un paradigme exclusif, quoi.
Alors, je pense que déjà, c'est super difficile de porter un message à l'échelle de l'Institut, hein, parce on est plus de 10 000, hein, à l'échelle nationale. Donc, je pense pas, moi, pouvoir synthétiser l'imaginaire, comme tu dis, de ces 10 000 personnes. En tout cas, l'INRA aujourd'hui, il y a une chose qui est claire et nette, c'est qu'on a une volonté de produire sans pesticides. Donc ça, de toute manière, ça donne le cap un peu pour tout le monde. Si tu souhaites des financements pour ta recherche, globalement, il faut s'aligner là-dessus.
D'accord, il y a une doctrine en fait de l'INRA sur le sujet, quoi.
Alors, doctrine, je sais. En tout cas, l'INRA, pendant longtemps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, on a dit on veut réduire les pesticides. Et du coup, c'est super difficile en termes de recherche parce qu'on a toujours cette baguette magique et on se dit, ah ben, c'est dommage de ne pas la mobiliser. Et en fait, c'est peut-être, ça nous amène peut-être à être plus en rupture que de se dire, vous, ce levier-là, vous ne le mobiliserez pas, quoi. Et trouver des solutions sans ça, plutôt que des solutions qui essayent de minimiser ça. Donc, bon, ça peut être discuté. Après, c'est vrai que dans la vraie vie, en tout cas, quand on se retrouve face à une parcelle et on se dit, t'as pas le droit de mettre de pesticides, eh ben, ça nous amène quand même à pousser la réflexion peut-être plus loin. Après, en termes de regard sur ces plantes des champs cultivés, je pense que là, les regards diffèrent, notamment entre les différentes générations, quoi. C'est-à-dire une génération où, parce qu'en fait, la malherbologie, l'étude des mauvaises herbes a beaucoup changé ces dernières 15-20 années. En fait, pendant longtemps, de 1960 aux années 2000, globalement, les malherbologues étaient des chimistes qui maîtrisaient bien toutes ces molécules, leur spectre d'action, la flore, et en fait, la malherbologie était intimement liée à la gestion chimique de la flore adventice. Et du coup, il y en a énormément. En fait, leur boulot, c'était de comprendre les mécanismes de résistance aux herbicides. La malherbologie a été vraiment dominée par ces sujets-là pendant une quarantaine d'années, parce qu'en fait, on avait un levier qui marchait super bien et où on entendait moins, en tout cas, tous les impacts négatifs liés à la santé des agriculteurs, de la qualité de l'eau, la biodiversité, etc. C'était moins d'actualité. Et donc, c'était vraiment de comment on fait pour éradiquer cette flore globalement, sans tout en maîtrisant les risques de résistance et compagnie et en les comprenant, quoi. Donc ça, je pense que ça a été pendant 40 années ce qui a dominé la recherche sur la flore adventice. Et après, bon, même s'il y a eu des sonneurs d'alerte, hein, dès les années 60-70, mais on va dire que c'est suite à la conférence de Rio, tout ça, fin des années 90, où on s'est dit quand même cette forme d'agriculture, elle a un énorme impact sur les ressources naturelles et la biodiversité. Il faut faire quelque chose, quoi. Et donc là, je pense qu'il y a eu une conscience écologique qui s'est réveillée. Et la nouvelle génération, on va dire, de chercheurs a été beaucoup plus en train de se dire, de toute façon, les éradiquer, on n'y arrivera pas. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant 40 ans. Aujourd'hui, on a des problèmes de résistance avérés chez certaines espèces problématiques. Et en plus, on a des molécules qui sautent tous les ans. Donc, en quelque sorte, entre guillemets, là, hein, les solutions chimiques pour les agriculteurs se font de moins en moins nombreuses. Donc, on met la pression en plus sur un certain nombre de molécules plus restreint, quoi. Et donc, nous, on s'est dit, en fait, éradiquer, on n'y arrivera pas. Ce qu'il faut réussir à allier, c'est minimiser les pertes de rendement dues à la flore adventice, parce
Mais
que
il y a quand
essayer
même
aussi de
un
maintenir
objectif de
production dans ces parcelles. Alors
à minima à
aujourd'hui,
l'échelle de
on a une
l'agroécosystème, hein, des
diversité de
différentes
services,
parcelles,
qu'on
de
a
la
tant de ces
ferme, du
parcelles, la
paysage, du petit
production
paysage,
a une part importante,
une
mais pas que,
diversité et
de
ça, je pense que
flore.
ça a
Bon,
changé depuis le
d'une
temps, hein,
part
où
parce qu'elle a le
vraiment
droit
parcelle
d'exister,
agricole,
et
production,
d'autre part
aujourd'hui on
parce
se
que
rend
c'est
compte que
aussi elle
le
qui
qui fait
permet
la
l'école
maintenir
rendre une diversité de
une diversité
pollinisateurs,
d'insectes
d'insectes,
au-delà
et
de
tout ça,
la
ça
production
représente la base
agricole. Et
trophique
donc
dans les
l'objectif,
agroécosystèmes, hein.
minimiser ces 10 services que sont la perte de rendement, la pollution des récoltes, etc.
Et par exemple, il y a un lien entre la flore adventice et les oiseaux, puisque un certain nombre d'oiseaux des plaines mangent ces graines. Donc, il peut y avoir des impacts en cascade. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir des agroécosystèmes multifonctionnels. Et on reconnaît que là-dedans, la flore adventice, notamment dans ces systèmes de la Nord de France très simplifiés, dominés par les cultures, que la flore adventice a sa part à jouer, quoi. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que l'évolution que je la vois, on va dire, plutôt entre ma génération, hein, moi je suis né dans les années 92, et peut-être l'ancienne génération de chercheurs qui a été vraiment, qui s'est particulièrement intéressée aux herbicides.
Du coup, on va basculer maintenant sur la renouée du Japon.
Ouais.
Alors, avant ça même, est-ce que ouais, j'aurais une question sur ta perception de ce que tu viens de me dire là sur cette évolution-là en fait qu'il y a dans le milieu scientifique là depuis en l'espace d'une quinzaine d'années quoi finalement c'est ce qu'on est en
Ouais.
train de se dire quoi enfin du moins dans les milieux agronomiques. Est-ce que c'est un type de discours qui à ton avis infuse ou a commencé d'infuser en fait d'autres domaines enfin ou du moins le domaine plus particulier du génie civil, de la gestion en fait des espaces aménagés quoi.
Ben, je pense, alors peut-être juste des éléments comme ça qui me viennent en tête quand tu me poses cette question. Je pense que quand même aujourd'hui, il y a une volonté de réintroduire des haies dans les milieux agricoles, hein. Il y a beaucoup de projets agroforestiers, l'objectif de remettre un petit peu de bocage là-dessus. Donc ça peut faire appel à des hors la parcelle ou en bordure de parcelle, en tout cas. Je pense aussi à tout ce qui est tout ce qui est fauche des bandes enherbées aux abords des parcelles, etc., ou qui d'ailleurs peuvent être des zones publiques de temps en temps, d'essayer de mettre en place plutôt des fauches tardives, de décaler jusqu'à juin les premières fauches pour essayer de voilà bah, que ces milieux-là soient véritablement fonctionnels. Après, à plus grande échelle, je pense que oui, il y a des. Enfin, de tous les acteurs de l'environnement, en tout cas, sont plus qu'au courant des impacts négatifs de l'agriculture sur l'environnement, hein. Notamment sur, bah, je pense par exemple, les botanistes sont très bien avertis du déclin de cette flore, hein. Il y a des espèces adventices maintenant qui sont quand même sur liste rouge, hein, des espèces qui, a priori, qu'on ne voulait pas dans les champs, et pour le coup, en fait, c'est même pas qu'on les voulait pas dans les champs, c'est que en exerçant une telle pression sur certaines espèces, en fait, on a réussi à en faire disparaître d'autres. Et aujourd'hui, ces espèces sont sur liste rouge, hein. Il existe des listes rouges d'espèces adventices. D'ailleurs, en France, comme bien dans d'autres pays européens, on s'aperçoit que les espèces qui sont les plus menacées sont les espèces à la fois liées au milieu agricole et liées au milieu humide. C'est vraiment les deux cortèges d'espèces qui sont le plus en raréfaction. Voilà, je pense que aussi chez le grand public, il y a cette prise de conscience, hein. On a vu apparaître des mouvements comme on veut des coquelicots. Donc, je pense que ça atteste bien d'une volonté du grand public de vouloir préserver cette flore. Et après, en fait, et je pense que dans la renouée du Japon, ça va être important aussi. Il y a quand même un petit point philosophique qui peut vous intéresser là-dedans. C'est la question du statut des espèces. C'est-à-dire que et là, c'est pas vraiment dans l'imaginaire, hein, là, ça va vraiment affecter directement comment différents botanistes, du moins, enfin, ça va vraiment driver le regard que certains botanistes peuvent avoir sur des espèces, c'est en prenant leur statut, leurs origines, notamment leur statut d'indigénat. Est-ce que ces espèces sont naturellement présentes chez nous? Parce qu'il faut voir que quand même aujourd'hui, il y a des espèces qui disparaissent globalement, mais en fait qui ne sont pas indigènes de chez nous. En fait, elles attestent surtout en fait, c'est un patrimoine biologique, historique, culturel, je ne sais pas comment on veut l'appeler, mais en fait qui atteste de notre histoire agricole, c'est-à-dire de l'arrivée des céréales du Moyen-Orient jusqu'à chez nous. Ces lots de céréales se sont enrichis au cours des voyages. Et donc, et ont apporté tout un tas d'espèces qui, du moins si on remonte à plus de 10 000 ans, n'étaient pas chez nous, quoi. Et donc, par exemple, en termes de statut de protection ou de regard qu'on peut avoir sur les espèces, on ne va pas du tout avoir le même regard ou enjeu de conservation selon que ces espèces aient été introduites récemment ou de manière très historique, quoi. Voilà, chez ce contingent de la flore adventice, on a quand même aussi des espèces qui ont un symbolisme fort, hein. Je pense notamment aux bleuets, aux coquelicots, comment dire, symbolisent ce devoir de mémoire envers les anciens combattants, les blessés de guerre, les veuves, les orphelins, etc. Bon, et qui est repris par le coquelicot d'ailleurs en Angleterre. Donc, il y a des espèces au-delà de leur statut qui aussi sont dans notre culture et portent une image forte. Et voilà. Et ça aussi, ça peut, je pense, driver la perception qu'on peut en avoir. Si on peut continuer sur cette notion de perception, il faut aussi voir que dans certains coins où persiste une agriculture, on va dire, traditionnelle, extensive, donc je pense notamment aux toutes ces zones d'élevage de moyenne montagne qu'on peut retrouver sur les causses du Larzac au nord de Montpellier, sur l'Luberon, côté d'Avignon, ou même les Hautes-Alpes, où en fait, où il y a, bon, ils peuvent être labellisés bio ou pas, mais en tout cas, ces agriculteurs qui mènent une agriculture extensive, c'est la présence de ces espèces dans leurs champs, c'est quand même un porte-bannière contre l'agriculture intensive productiviste. Donc c'est quelque chose qui peut être bien perçu par ces agriculteurs parce que rien que la présence de ces espèces dans leurs parcelles montre bien qu'ils font quelque chose de différent et qui s'éloignent des pratiques mainstream actuelles en tout cas pour.
Ok. Oui, bah oui, tous ces marqueurs symboliques, c'est assez important dans les choses qu'on mène en ce moment. Du coup, c'est rigolo parce que les coquelicots, je crois qu'ils sont pariés beaucoup plus tôt que la renouée du Japon.
Alors, je crois que le coquelicot, c'est une de ces rares espèces qui porte le statut de cryptique. C'est-à-dire que c'est hyper difficile de déterminer son indigénat, sa date d'arrivée.
Ouais,
Est-ce
c'est
qu'il était
ça,
indigène ou pas? C'est flou. Je crois que
ouais.
c'est pour ça qu'ils mettent ce statut cryptique.
Du coup,
Et, ah oui, et si je
ouais.
finis aussi là-dessus, parce que c'est une de mes petites spécialités, on ne va pas non plus avoir le même regard envers une flore spécialiste et une flore généraliste. C'est-à-dire que ces espèces qui dégringolent, qui se raréfient dans les champs cultivés, c'est des spécialistes des champs cultivés. Donc, c'est-à-dire que si elles disparaissent des champs cultivés, elles disparaissent de partout. Alors qu'il y a tout un tas d'espèces qu'on qualifie de généralistes qui, en fait, se retrouvent probablement sur votre pelouse, sur le trottoir devant le boulot, là, et aussi dans les parcelles cultivées. Et donc, l'enjeu de préserver ces espèces dans les milieux cultivés peut aussi se questionner parce que ça ne fait partie qu'une. En fait, elles occupent une diversité de milieux, ces espèces-là. Et donc, à l'échelle du territoire, elles peuvent très bien se maintenir alors même qu'on les gère très bien dans les parcelles agricoles. Donc voilà, on va avoir un regard particulier pour ces espèces qui sont vraiment des spécialistes des champs cultivés, qui n'habitent, entre guillemets, que dans les champs cultivés, quoi. C'est ce qu'on appelle la flore ségétale, les messicoles, la flore des moissons.
Okay. Donc là, ce que tu m'expliques, en fait, c'est un peu une espèce de cadre d'évaluation, ou du moins de, enfin, ces différents statuts, en fait, de plantes. C'est ce qui te permet quelque part d'affecter une valeur plus importante à une plante qu'à une autre, en fait,
Ouais. Très clairement, c'est en termes d'enjeux de conservation, ces espèces ne vont pas avoir du tout la même note. On pourrait imaginer des indicateurs qui intègrent le statut liste rouge de ces espèces, le nombre de parcelles dans lesquelles elles sont présentes, leur fidélité au milieu agricole, etc., quoi. Et puis peut-être même intégrer aussi des indicateurs qui relatent des interactions qu'elles peuvent avoir avec la biodiversité, hein, parce que forcément, des espèces à fleurs, en géosperme, vont, en termes d'interaction avec les insectes, ça va être beaucoup plus important que avec des graminées, par exemple. C'est vrai que les graminées dans les systèmes à céréales à paille n'ont pas très bonne. comment dire non, on n'a pas un super regard, quoi, en tout cas.
Oui, parce que ça prend la place finalement des autres pailles, en fait, c'est ça ou
Ouais, ben, c'est des espèces qui effectivement sont fonctionnellement très proches des céréales et qui en plus se gèrent beaucoup plus difficilement. Une céréale dans une céréale, c'est plus difficile à gérer qu'une dicotylédone dans une céréale. Et donc, oui, voilà. Et pour le coup, il y en a quasiment aucune qui a un enjeu de conservation, etc. Et parmi les espèces les plus problématiques, compétitives en grande culture, eh ben, c'est sûr qu'on a le vulpin des champs, on a la folle avoine, on a toute une série de brômes, etc. Donc, oui. Donc c'est vrai que aussi en termes pour le malherbologue, l'effet compétitif de l'espèce va rentrer en jeu, je pense aussi dans la perception qu'il peut en avoir.
Et du coup, en fait, tu parles de malherbologie parce que c'est toujours quelque chose que, enfin, c'est toujours comme ça qu'on l'appelle, cette discipline ou
Alors c'est rigolo parce que l'autre jour, Alors en fait, on tient notamment cette nouvelle génération au terme adventice, hein, parce qu'il n'y a pas cette notion anthropocentrique de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. C'est une espèce qui est là, qui est présente de manière non intentionnelle. Voilà. Mais du coup, l'autre jour, j'ai vu malherbologie, science qui étudie les communautés adventices. Et donc, ça m'a fait sourire parce que enfin, clairement, malherbologie est structurée autour de mauvaises herbes. Et donc, ça fait sourire que dans sa définition, on parle après d'adventice, quoi. Mais en tout cas, c'est un terme, je pense qu'on n'a pas l'équivalent avec adventice dedans. Et donc, on se garde ça sous le coude. Mais c'est vrai qu'il y a une déconnexion, en tout cas, je trouve, malherbologie vraiment avec cette connotation mauvaises herbes et étude des communautés adventices, qui est quelque chose de beaucoup plus neutre.
Ah, du coup,
Voilà, après, ce
ça
qui
continue de s'appeler
est.
comme ça, mais ça fonctionne plus tout à fait pareil, quoi. C'est
Mais
ça?
ce qui est difficile en plus aujourd'hui, c'est que voilà, je discute avec quelqu'un qui n'est pas du milieu, je dis que je travaille sur la flore adventice, je suis quasiment obligé dans la phrase d'après de parler de mauvaises herbes, sinon on me regarde avec des gros yeux, et c'est sûr que le terme mauvaises herbes, même, et d'ailleurs le grand public, mais l'autre jour j'étais chez un viticulteur, adventice, ça parlait pas non plus. Donc voilà, il y a quand même. C'est pas forcément un terme super bien connu.
Bah oui.
Et encore moins si on parle de flore ségétale ou de messicole ou tout ça. Là, c'est
C'est
vraiment des
clair.
termes de spécialistes. D'ailleurs, il y a
Messicole,
un
je
terme.
connaissais, mais ségétal, je ne connaissais pas.
Et pas, en plus, il y a un terme qui est super, hein, mais qui, pour le coup, n'a jamais percé. C'est le terme de plante arvicole, c'est-à-dire une plante des champs cultivés. Voilà. Hyper factuel, neutre.
Okay. Presque, il faudrait s'appeler un champologue, quoi.
Eh ben, les Anglais
Des
se
champs, quoi.
débrouillent, pas mal. Ils parlent de plantes des milieux arables.
Ouais, c'est pas mal, ça.
Arable plant. Donc, c'est une plante des milieux arables. Voilà. Et j'aime bien aussi ce terme-là. Je trouve qu'il est plus neutre parce qu'il faut quand même voir que dans ce contingent de la flore adventice, on a des espèces qui bouclent leur cycle en 3 mois et qui font 7 cm de hauteur. Et on a des espèces qui poussent sur l'intégralité du cycle de la culture, peuvent faire 2 mètres de haut, la priver de la lumière, etc. Donc, c'est pour moi, on ne peut pas toutes les mettre dans le même panier, en tout cas.
Clairement, ouais. Et du coup, quand tu as répondu, manifestement, tu connais un petit peu la renouée du Japon, j'imagine, parce que tu as aussi une casquette de botaniste amateur en dehors
C'est ça.
de ton activité de chercheur. Peut-être que tu es impliqué dans des associations de naturalistes ou des choses comme ça ou,
Alors j'ai été, oui, en tout cas dans mes débuts, j'ai un peu moins de temps maintenant, mais en tout cas je reste actif, et puis c'est des milieux que je côtoie directement ou indirectement, mais ouais. Et puis il faut dire que j'ai un de mes bons copains qui est chargé biodiversité de la ville de Dijon, donc ça fait partie de ses missions.
Okay. Il me donnera son adresse.
Oui, mais
Il y
c'est
a
ce que je t'ai
moyen.
dit au Jardin des Sciences. Quand je te parlais du Jardin des Sciences, c'est là-bas, il y a le chargé biodiversité de la ville de Dijon, qui s'appelle
Ok.
Johan Lallemand. Et
Ah
donc,
bah
ça fait
oui.
part. Donc, tu l'as.
Je l'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps.
Voilà.
Et j'ai son numéro de téléphone, mais il ne me répond plus. Bref.
Alors, le truc, c'est que peut-être il faut attendre demain après-midi parce qu'il passe un concours, là, demain. Donc, c'est peut-être. Il a
Ok.
peut-être dû prioriser.
Il a peut-être éteint son portable depuis quelques semaines. On s'est
Ah,
rencontrés
depuis
au
quelques
jardin.
semaines.
Ouais, on s'est rencontrés au jardin de l'arquebuse il y a un mois.
Ok.
Et bon, bref, je sais pas ce qui se passe, il veut plus me parler. Ou
Ouais,
alors c'est que j'ai pas le bon numéro, j'en sais rien. Enfin, il y a un téléphone qui sonne, mais j'arrive pas à l'avoir lui. Bon,
ok. Bon,
je
est-ce que je peux
désespère
vous
pas.
passer son adresse mail si vous voulez tenter une autre.
Ouais.
Donc oui, donc c'est une espèce, des espèces comment dire, dont on entend souvent parler, hein, et puis je veux dire, dès qu'on s'intéresse un peu à la flore de milieux urbains, on peut difficilement passer à côté. Et puis nous, on la voit, par exemple, elle est très présente au bord des. Alors on la voit peu en milieu, dans les parcelles. Mais très souvent, on peut la voir en bordure de fossés, le long des voies, des routes de campagne, etc. Donc, c'est quand même une espèce qu'on croise fréquemment. Ou ici, le bord de tout ce qui est canal.
Ouais. Canal, route, éventuellement, des choses comme ça, ouais.
Voilà, ou même les ballasts de chemin de fer, c'est des milieux. Bon, c'est pas forcément les milieux qui transcendent les botanistes le plus, mais il peut y avoir des choses originales, et puis c'est des espèces qui quand même on passe difficilement à côté, quoi. Quand on connaît pas, hein, et qu'on s'y intéresse, on est très rapidement amené à se poser la question, qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est que ce gros machin? Ouais, du coup, y a pas tellement de cas, en fait, du moins dans les endroits que tu observes, comment dire,
Moi, je
de
ne suis jamais
colonisation
tombé.
dans les champs, en fait. Ouais.
Non, alors bon, il faut voir que c'est une espèce vivace, hein, donc dès lors qu'il y a travail du sol, c'est probablement, enfin ça la favorise largement moins, hein, puis l'agriculture est très largement basée sur le travail du sol actuellement, donc je pense que C'est pas une espèce qu'on voit beaucoup. Après, elle semble très affectée, en tout cas, à des terrains remaniés, avec des dépôts de terre ici et là, au bord des autoroutes, des dépôts illégaux, des trucs comme ça. C'est quand même très souvent dans des endroits, en tout cas, remaniés, pas des biotopes primaires, quoi. Ouais.
Ok, donc tu l'as croisé comme ça un peu plus côté côté botaniste quoi.
Oui.
Et du coup, qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette plante là comme ça, enfin, parce que
Alors moi, bon, ça fait depuis que je m'intéresse à la flore que j'en entends parler, hein, mais j'ai quand même l'impression que le regard a un petit peu changé là-dessus aussi, parce qu'au début, et je pense que c'est valable pour pas mal d'espèces envahissantes, mais en fait, au début, on a l'impression quand même qu'on va pouvoir contrôler tout ça. Et donc, il y a une véritable volonté de lutter, d'essayer d'éradiquer les premières stations et tout. Mais on se rend compte aujourd'hui que cette espèce, elle est absolument partout, quoi. Et donc, à moins de débloquer des milliards d'euros, en fait, on s'en débarrassera pas, quoi. Et puis, c'est pas, enfin, il faut des fauches répétées, répétées, etc. pour rien que la contrôler, même pas l'éradiquer, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, enfin, et je fais un peu l'analogie avec les lentes, qui est une autre espèce problématique et qui doit partager à peu près les mêmes milieux, du moins par endroit, et où en fait aujourd'hui on réalise que juste il va peut-être falloir faire avec, tellement en fait l'espèce est partout, hyper difficile à contrôler. Voilà. Après, ce qui questionne dans tout ça, c'est l'impact que ça peut avoir sur la flore locale indigène chez nous, quoi. Alors après, ça, c'est super difficile à répondre, enfin, du moins pour moi. Après, il y a toujours eu historiquement un rebrassage d'espèces, hein, à l'échelle des continents, etc., mais pas à cette vitesse-là. Je connais mal tout ce qui est interaction entre ces espèces et la biodiversité, visiblement, ça semble attirer un certain nombre d'insectes, mais en fait, par exemple, il y en a beaucoup sur la ville de Dijon. La ville de Dijon a des ruchers partout. Ils ont fait des analyses de pollen dans tous les miels. Ils n'ont jamais retrouvé de miel de pollen de renouée du Japon. Donc, c'est peut-être pas, en tout cas, là-dessus qu'il faut compter. Après, il y
ouais,
a.
Joanne m'avait parlé de cette expérience. Je serais curieux en fait de voir les proofs, en tout cas. J'aime bien ces trucs.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Du Japon.
Oui, toi, ce que tu dis, c'est ouais, tu penses qu'il peut y avoir un danger sur les flores locales.
Ouais. Ouais. Alors après, il faut quand même voir que, en fait, là, je pense où il y a le plus grand enjeu sur la flore locale, c'est très clairement en milieu de ripisylve, c'est-à-dire en abord de tout ce qui est zone humide et compagnie, où il peut y avoir une flore enjeu de conservation. En tout cas, hein, je disais tout à l'heure, hein, les milieux humides font partie des milieux les plus menacés. Et donc, si en plus des espèces comme ça, à l'instar du houblon ou d'autres espèces, viennent complètement coloniser, ou de même des hippomées dans le sud de la France, qui peuvent coloniser ce type de milieu et produire une nappe comme ça en bord de rivière, en fait, qui étouffe absolument tout le monde. Hein. Donc, oui, ça questionne.
Et du coup, ouais, enfin, t'imagines qu'il faut faire quoi? Alors, c'est pas le scientifique, enfin le spécialiste que je questionne en fait. C'est toi ce que ça t'amène à penser comme geste de protection. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce que c'est plus la peine?
Alors, en fait, bon, moi, ça m'amène à me poser tout un tas de questions d'un point de vue recherche, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que cette espèce, elle arrive à aussi bien coloniser et se développer? Est-ce que ça, qu'est-ce qui explique que en certains endroits, elle y arrive, peut-être dans d'autres, elle n'y arrive pas? Est-ce que c'est dû au fait que déjà ces milieux-là soient affaiblis par ailleurs, et donc il y a une espèce de niche fonctionnelle qui est vide? et que cette espèce vient occuper parce que ces milieux-là ne sont déjà pas en bon état. Alors ça, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, mais ça pourrait être une hypothèse. Après, pourquoi pas imaginer des moyens aussi, parce que le problème aujourd'hui, c'est que la lutte, elle coûte énormément et elle rapporte peu. Il y a quand même cette espèce, elle est quand même beaucoup... Enfin, on retrouve beaucoup d'usages hein, de cette espèce dès lors qu'on passe, on va dire, côté asiatique, où cette espèce est traditionnellement beaucoup plus d'usage que chez nous. On en mange les pousses, au moins les jeunes pousses, et probablement d'autres usages que je ne connais pas. Donc ça, c'est sûr que ça pourrait être un moyen aussi de un petit peu de rentabiliser la gestion de cette espèce. Alors après, comme je disais tout à l'heure, elle pousse très souvent dans des milieux... qui font pas forcément rêver ou qui peuvent être en tout cas entre guillemets pollués quoi. Je pense à toutes ces zones autour des autoroutes où la terre est remaniée, c'est pas forcément là où on a envie d'aller manger des jeunes pousses. La solution, si je l'avais, non, je m'en priverais pas.
OK. Eh ben moi, je suis arrivé au bout de mes questions.
Ok, il y a certains éléments que tu veux que je revienne dessus ou
Non, ça me paraît très très bien.
voilà. En tout cas, pour vous, je pense que et j'avais pas pensé au départ, mais je pense qu'il y a beaucoup cette notion de statut des espèces hein, qui est important et qui va chez les botanistes d'arriver. Le regard qu'ils en ont et donc tout ce qui est mesure de conservation et tout. On part du principe que les espèces qui sont arrivées longtemps chez nous ont une valeur patrimoniale bien plus importante que les espèces qui sont arrivées récemment chez nous. Par exemple, pour faire simple, le maïs a probablement débarqué chez nous 1500, 1600 par là, quoi. Donc relativement récemment dans l'histoire de l'agriculture, il n'y a aucune espèce à enjeu dans les parcelles de maïs. Les espèces en jeu se retrouvent dans les parcelles de céréales à paille qui correspondent en fait à notre système de culture traditionnel français depuis des milliers d'années. Et donc, oui, et où on retrouve ces espèces. Donc, ces statuts de néophytes. Donc, néophytes, c'est ce qui va qualifier les espèces qui sont arrivées après les années 1500 en France, versus les archéophytes, les espèces qui ont été introduites il y a beaucoup plus longtemps, versus aussi la flore indigène. Et il faut voir que ces statuts des espèces, elles vont influencer leur évaluation. Parce que, en fait, par exemple, quand quelqu'un fait une évaluation liste rouge, il peut décider de ne se préoccuper que de la flore indigène. Et donc, de facto, toutes ces espèces-là ne sont jamais évaluées. Parce que, en fait, elles ne sont pas considérées comme flore indigène, cette flore des moissons-là. Et donc, tout ça, forcément, ce n'est pas intégré dans les listes rouges, donc ça n'a pas de statut de conservation. Donc le botaniste, on va dire, qui travaille dans les milieux, dans ces milieux de préservation des milieux et des espèces, en fait, ne va pas y porter un grand intérêt, parce que de par son statut, elle sera plus ou moins, elle sera évaluée ou pas sur liste rouge, et donc lui, il aura comme mission, enfin très très souvent, hein, les missions dans les conservatoires des espaces naturels sont axées autour des espèces à enjeu, des déterminantes ZNIEF, des espèces liste rouge, etc., etc. Et donc, si ces espèces-là ne sont pas intégrées dans les évaluations, il n'y aura jamais de mesures de conservation spécifiques sur ces espèces. Et là, par exemple, pour vous donner une idée, il y a une espèce adventice qui était, il y a une quinzaine d'années, qui était présente plus que dans une seule parcelle. Et donc, le conservatoire botanique a racheté la parcelle et fait un bail de gestion avec un agriculteur pour essayer de préserver l'espèce, quoi. Mais cette espèce était évaluée en danger critique d'extinction sur liste rouge. Donc ça, déjà, ça débloque aussi des mécanismes derrière de préservation, quoi. Enfin, et notamment de financement, hein, pour faire ça. Donc en tout cas, voilà, je pense que ce statut, c'est difficilement quelque chose que vous pouvez, hein, du moins quand vous interrogez des gens comme moi, vous pouvez difficilement passer à côté parce que c'est vrai que
C'est
Ça va
influence sur notre
driver.
manière de penser, ouais. Ouais.
Ouais.
Et du coup, ouais, ce qu'il y a de rigolo, mais ça, c'est un constat que j'avais déjà, enfin, ou du moins une espèce d'articulation que j'avais déjà trouvé, c'est que cette question de statut des plans, en fait, elle nous fait nous concentrer en fait sur l'écologie depuis la question de l'écologie depuis les espèces. Et elle affecte, du coup, je trouve, beaucoup les communautés naturalistes, enfin, au-delà en fait de simplement le milieu scientifique. Hein. Et du coup, il y a quand même une façon comme ça de privilégier les espèces, alors que des fois, c'est plutôt les espaces qu'il faut qu'on protège, enfin les milieux, quoi, d'une
Oui,
façon générale, quoi.
et d'ailleurs, et aujourd'hui, dans les mesures de conservation, et c'est pour ça qu'on parle d'espèces parapluies, c'est parce qu'il y a des espèces qui justement sont des spécialistes de certains milieux, et donc on sait qu'en protégeant ces espèces-là, indirectement, on protège des milieux. Mais bon, maintenant, on en est beaucoup plus à protéger des communautés de milieux. Bon, parce qu'il y a aussi des listes rouges des habitats, hein. On est beaucoup,
Ouais.
on travaille aussi à l'échelle des écosystèmes. Donc,
À l'inverse, ce que j'imagine, c'est que des espèces invasives, enfin, envahissantes, il faut que j'arrête de prendre ce vocable-là, comme la renouée du Japon, elles vont avoir parfois l'effet inverse, c'est-à-dire que on peut se dire que tel espace est à prendre, ou c'est un peu une terra nullius s'il y a telle ou telle espèce que de toute façon on ne veut pas trop avoir, quoi. Disons que c'est OK d'aller faire des traitements de sol un peu barbares sur un milieu à partir du moment où il y a ce type d'espèce de désintérêt, on va dire, quoi. Enfin, la renouée du Japon, par exemple, ça peut être un indicateur de bon, de toute façon, le sol est pourri. On peut bien, grosso modo, si on a rempli ce qu'il faut au niveau des normes environnementales de pollution, à peu près bétonner comme on veut, quoi. Du moins, c'est un peu le ou raser la friche qu'elle occupe, ou considérer comme friche en fait l'espace que cette plante occupe, quoi. Et ça vaut
Alors, la
pour la
renouée du
renouée, pour
Japon,
les landes, pour machin, pour.
c'est vrai que la renouée du Japon, il y a cette idée, et alors je pense qu'il a largement été influencé par Gérard Husser, hein, et que je ne partage pas, enfin, où je pense qu'on n'a aucune bille, enfin, aucune référence scientifique qui permet d'affirmer ce propos. Donc, je ne peux pas dire que c'est vrai ou que c'est faux, juste qu'on n'a pas de référence, mais ce lien qu'il y aurait entre renouée du Japon et sol pollué est loin d'être aussi évident que ça. En fait, c'est un lien indirect qu'on fait parce que justement, on la trouve beaucoup dans des terrains remaniés, parce qu'il faut qu'elle colonise à un moment donné, donc il faut l'apporter, cette espèce, et plus le milieu est remanié, perturbé, bah, plus ça veut dire qu'elle a eu une probabilité d'être apportée, quoi, mais en fait, elle le pousse dans plein d'endroits différents et pas forcément que des sols pollués. Donc, et ça, je pense que ça aussi, peut-être dans notre imaginaire, hein, il y a beaucoup de gens qui font le lien renouée du Japon, sol pollué, et donc c'est sûr que c'est un élément négatif en plus par rapport à l'espèce. Et en tout cas, encore une fois, en fait, tout ça je pense, prend ses origines dans le fait que la renouée du Japon au Japon pousse sur des espèces de roches magmatiques riches en métaux lourds. Et donc, on se dit que chez nous, en fait, elle a probablement la même écologie et tout. Mais en fait, ça, c'est vraiment dans son biotope naturel.
Disons que ça, c'est une parole que j'ai longtemps relayée, cette histoire de présence en fait sur les cendres volcaniques. C'est un aspect en fait de ces capacités de colonisation, mais là où elle est le plus à l'aise en fait, hein, c'est en plaine alluvionnaire,
Avec
pépouze,
du sol, ouais.
avec du sol et tout ça en fait.
Mais
Donc elle a une
c'est
capacité d'adaptation assez
énorme,
remarquable,
ouais.
énorme.
Et
C'est
d'ailleurs,
assez
probablement
facile.
dû au fait qu'on parle pas d'une espèce, mais d'un complexe hybridogène qui doit bien s'adapter à différents. Enfin, il doit y avoir une capacité d'adaptation plus importante quand on parle de plusieurs espèces qui sont capables de s'hybrider. Et en tout cas, et oui, et c'est le même genre de raccourci qui a pu être fait avec l'ambroisie à feuilles d'armoise. L'ambroisie à feuilles d'armoise pousse sur des dunes sableuses, et donc quand on la retrouve dans les champs cultivés, ça veut dire que les champs cultivés évoluent vers un milieu mort, en gros sableux, sans activité biologique et tout. Alors qu'on se rend compte, il y a plein d'études, et notamment des études qui ont été faites chez nous, que en fait l'ambroisie à feuilles d'armoise, elle se caractérise avant tout par une plasticité écologique énorme. Elle est capable de coloniser des ballasts de chemin de fer, des dunes aussi, pas de problème, mais aussi des argiles riches, hyper profondes. Voilà. Et donc en fait, c'est probablement juste qu'elle a une large amplitude écologique. Et on ne peut pas faire de raccourci, en tout cas selon moi, présente ambroisie égale un sol mort. Ça me...
Petit retour sur une remarque que tu as faite à un moment donné en disant que oui, la norme, du moins le truc le plus répandu aujourd'hui en agriculture, c'est le travail des sols, enfin, en tout cas que le travail des sols est hyper
Ouais, chimie,
répandu.
travail du sol, ouais, ça va
Chimie,
être
travail du sol, c'est un peu
le béaba,
le truc qu'on sait faire, quoi.
ouais.
Mais. À ton avis, est-ce que des plantes comme la renouée avec ce type de développement, en fait, elles peuvent de fait représenter un problème en fait dans des systèmes sans labour, comme on en voit
Ah ben je...
de plus en plus préconisé finalement en fait.
Ah ben si j'avais à prédire, c'est sûr que je dirais que si elle apparaît dans les parcelles agricoles, ce sera probablement des parcelles agricoles où le travail du sol a été réduit, puisque ou réduit ou enfin minimisé ou voire même est absent. Alors après, le petit hic quand même, c'est que dans ces systèmes-là, en fait, vu qu'on ne fait pas de travail du sol, on a bon, alors selon les agriculteurs qui pratiquent cela, on a trois principaux leviers que sont la diversification des cultures pour essayer de casser le cycle des espèces, des bio-agresseurs, une couverture permanente du sol, donc l'idée c'est de faire un mulch, et une perturbation minimale du sol. Le hic, c'est que en fait, quand on a dit ça, eh ben, après, en fait, des leviers pour gérer la flore adventice, on n'en a pas pléthore. Et donc, en fait, ces gars-là ont une stratégie vraiment très chimique pour gérer la flore adventice. Et ils ont notamment recours à des herbicides non sélectifs en interculture. On connaît tous bien le glyphosate. Et je pense que si on prend des publications de préservation, enfin, conservation des espaces naturels et tout, lutte contre la renouée du Japon, je pense qu'on verra que dans bien des pays, le glyphosate est le premier herbicide pour gérer cette espèce même en milieu naturel.
Ouais, bien sûr.
Donc il y a moyen que quand même, parce que en fait on voit bien qu'elle tolère bien la fauche, mais après probablement qu'elle est relativement sensible aux herbicides quand même aussi, quoi.
Oui, on arrive à en venir à bout avec. Enfin, du moins, c'est ce qui est utilisé pas mal
Aux US, j'imagine
aux
que...
USA, en Grande-Bretagne, on balance du glyphosate avec des résultats finalement qui sont assez ridicules, quoi, parce que ça l'empêche pas du tout de progresser
Mais
encore
après,
plus, quoi.
le hic en plus, quand on fait ça, c'est qu'on ouvre complètement le milieu. Et donc, c'est soit la renouée du Japon qui repart, soit un autre truc qu'on voulait pas non plus. Et donc, c'est compliqué, quoi.
Eh oui. Ok. Bon.
Je vais devoir te laisser, mais en tout
Ouais,
cas,
ouais.
si en reprenant la visio ou quoi, tu as des questions ou des petits points de précision, t'hésites pas à me redire, ok?
Ok, super. Bah,
Et je
mais
dis
là,
oh.
j'ai plein de trucs. Merci beaucoup. C'était super
Ok, top.
génial. Très bien.
Et juste, alors je suis sûr que tu me l'écris quelque part, mais j'en profite. La date de cet événement et le lieu?
Alors, la restitution, elle se fait le 13 juin, dans 2 semaines à
Ok.
peu près, dans un lieu qui s'appelle le Maquis.
Maquis,
C'est à Plombières-les-Dijon, c'est sur une des la, enfin, la à la maison éclusière en fait du canal de Bourgogne à Plombières. Ça,
Ok.
quelques encablures du lac Kir, quoi.
C'est en journée, le week-end, ça, c'est.
C'est un jeudi et
Ok.
ça se passe à 18h, à partir de
Ok.
18h. Voilà.
Ok, très bien.
Et
Top.
sinon, il y a un autre truc qui se passe ce vendredi à 19h. Et là, je serai avec une conteuse. On fait une espèce de... Enfin, on a fait un conte sur la renommée du Japon. Et je fabrique du thé pendant ce temps-là, que je distribue aux gens. Du thé de renommée du Japon, j'imagine bien. Et voilà. Donc, on
Ok.
raconte notre petite histoire et
Et
ça
c'est où
vous déploie.
ça?
C'est au même endroit.
Ok.
Au même endroit à 19h.
Et les deux, c'est grand public,
C'est grand
enfin,
public, ouais.
tout le monde est bienvenu.
Tout le monde est bienvenu.
Ok. Très bien. Eh ben, merci en tout cas. J'espère
Merci.
que ça t'a amené des éléments. Et puis sinon, n'hésite pas à me recontacter pour des précisions.
Ah, super. Merci beaucoup.
Yes, au plaisir.